Voilà. Ben, merci Marie-Hélène pour cette présentation. D'abord, je voudrais commencer par vous dire pourquoi je suis là. Je peux garder à la main, c'est pas grave. Oui, laisse-le là. Bon. En fait, pourquoi je fais ça, c'est parce que je me sens un peu redevable vis-à-vis de l'association, parce que j'ai toujours assisté, et j'ai jamais participé vraiment en tant que conférencier. Donc j'avais décidé de rendre hommage un peu à tous ceux qui passent leur, qui consacrent leur existence, pas leur existence, mais une grande partie de leur temps, une grande partie de leur temps à travailler pour les autres. Donc il est normal que ben, ça soit un peu le tour de chacun et de faire un effort pour essayer de présenter quelque chose d'intéressant. Alors ça, c'est ma première raison. La deuxième raison pourquoi le corail, ben parce que en fin de compte, je me demandais de quoi j'allais parler. Hein, parce que en fait, je suis spécialiste d'un tas de trucs, mais j'étais pas vraiment plongé dans le corail proprement dit en tant que scientifique. Mais je le connaissais parce que j'ai des bijoux justement qui portent du corail et je m'étais toujours demandé d'où ils venaient. J'ai toujours pensé que le corail, moi, venait de l'Asie et que c'était par le commerce qui venait d'Asie sur l'Europe et sur l'Afrique du Nord en particulier. Et en fait, quand je me suis plongé là-dedans, c'est comme un fil qu'on tire, et c'est absolument extraordinaire ce qu'on découvre. D'ailleurs, je vous conseille moi, je ne suis pas un savant particulier, n'importe qui, en allant maintenant sur Internet, peut retrouver l'origine de tout ce qu'on pourrait dire ce soir. Et moi, je n'ai rien inventé, je ne suis pas un spécialiste, je n'ai pas fait de thèse sur le sujet. Donc simplement, je vais vous montrer l'importance que ce matériau a eu dans le bassin méditerranéen depuis plus d'un millénaire. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une découverte incroyable. Vous verrez, j'espère vous faire partager un peu cette surprise que j'ai éprouvée moi-même en bâtissant ce sujet. Donc on va commencer par le début, d'abord justement pour corriger un peu Marielle. Parce qu'elle elle croit qu'elle a commis une erreur, mais pas du tout. De tout temps, très longtemps, jusqu'au presque au XVIIIe siècle, les gens ne savaient pas ce que c'était. Il le pêchait, il l'utilisait, il le transformait, etc. Mais en fin de compte, personne ne savait vraiment ce que c'était, parce que personne, vu que c'est sous la mer, n'avait pu suivre l'évolution d'un corail in situ. Voilà. En fait, le corail, c'est un animal qui s'appelle Corallium rubrum en latin, hein, qui est de l'ordre des gorgones. Alors tout le monde connaît les gorgones, les gorgones, c'est la méduse, hein, enfin une des sœurs, c'est la méduse, on en reparlera tout à l'heure. Alors la définition scientifique, bon, c'est un polype. Ouais, c'est un polype à 8 tentacules, c'est-à-dire que les petits animaux qui composent, qui sont branchés sur les bras de corail, sont des petits animaux qui ont 8 tentacules. C'est un peu la famille des anémones de mer. Les gens connaissent plus les anémones de mer que le corail. C'est un hexacorallière, parce qu'il a un octocorallière, parce qu'il a 8 branches, par opposition aux hexacorallières, justement, qui sont les anémones de mer. Alors c'est un animal branchu, c'est-à-dire qu'il a un squelette extérieur, rouge, et qui ressemble vraiment à un végétal, ce qui a donné justement ce qui a permis le doute pendant longtemps sur l'origine de cette chose que personne ne savait placer. En fait, sa couleur rouge est due à des pigments qui sont des carotènes. Au début, on croyait que c'était l'oxyde de fer, mais enfin, maintenant, on sait que ce sont des carotènes, la même chose que dans les carottes et dans tous les fruits rouges qu'on trouve. Alors pourquoi il y a du carotène dans ce corail là, ça on n'en sait rien, on le constate mais on ne peut pas l'expliquer, parce que la plupart du corail sur la planète est blanc. Quand vous allez dans le Pacifique, tous les coraux sont blancs, ouais. Enfin le support squelettique est blanc, voilà. Donc on ne va pas s'attarder plus longtemps maintenant qu'on sait que c'est un animal. Alors, ce qui est intéressant avec cette bestiole, c'est qu'en fin de compte, elle s'accroît très très lentement. Étant donné qu'elle sécrète son propre squelette, enfin que chaque petite polype sécrète le squelette, et que les polypes sont groupés, comme vous pouvez le voir là-dessus, tout ce que vous voyez en blanc, c'est des polypes qui sont donc en appui sur le squelette qu'elles ont sécrété. Et elles sont capables de se rétracter à l'intérieur, vous voyez. Donc elles sont à l'extérieur parce qu'elles mangent, elles bloquent tout ce qui passe autour, le plancton et tout ça. Donc l'accroissement d'une branche, vous voyez, c'est entre 2 et 5 mm par an. Donc vous voyez que pour arriver à fabriquer une touffe de corail de cette taille, le temps qu'il faut. Bon, vous imaginez les dégâts des pêcheurs, c'est-à-dire qu'en quelques secondes, ils vont récupérer des trucs qui ont mis des dizaines et des dizaines, selon des centaines d'années à pousser. Donc pour avoir des branches suffisamment grosses, il faut énormément de temps, quelques siècles. Voilà. Alors question de le biotope de ces animaux, s'étend de quelques mètres sous la mer, 4-5 mètres, jusqu'à plus de 300 à 400 mètres. Alors évidemment, aujourd'hui, la Méditerranée est complètement ravagée et il existe du corail, mais à très grande profondeur. Mais le corail est toujours pêché en Méditerranée. Donc il y a toujours du corail en Méditerranée. Ce n'est pas une espèce qui est réellement en danger, c'est une espèce qui est menacée de ne pas grandir. Parce que dès que justement les bras sont suffisamment visibles, ils sont cueillis. Par contre, quand ils sont tout petits, on ne les voit pas, donc le corail n'est pas menacé, mais il reste nain. Voilà, et on ne lui donne plus l'occasion de grandir. Voilà pour, en gros pour, le, pour la, la vie enfin, de ces animaux donc, dans l'océan. Alors, pourquoi le corail rouge de Méditerranée? Pour une raison très simple, c'est que c'est en Méditerranée que le corail rouge est le plus abondant. En Méditerranée de l'Ouest, pas tellement en Méditerranée de l'Est. Je ne sais pas, attendez, je vais voir juste une photo. Oh, ben je vous montrerai après la photo quand on parlera de la pêche. Alors, l'exploitation du corail, on la connaît depuis très longtemps. On ne peut pas la dater avec exactitude, mais on a déjà trouvé des dans les tombes du néolithique, c'est-à-dire entre... le paléolithique même, donc qui remonte à plus de 12 000 ans avant Jésus-Christ. Donc on trouvait déjà des débris de corail dans les tombes. Vous voyez que c'est quelque chose qui a vraiment marqué l'humanité depuis très longtemps. Et on en trouve bien plus récemment, ça concerne à peu près toutes les civilisations, les Celtes, qui décoraient leurs casques de guerre avec du corail. On en trouve énormément aux Indes et au Népal, dont l'origine d'ailleurs est méditerranéenne pour la plupart. Ça peut venir aussi de Chine, mais il y a beaucoup de corail népalais, indien, on verra plus tard pourquoi, qui est en provenance de la Méditerranée. Et en Mongolie, enfin, là, sûrement, ça atteint tout le monde entier. Mais tout le monde a aimé le corail, tout le monde s'y est intéressé. Alors, photo 1, bon, vous avez un bras de corail. Alors, voilà, photo 2, c'est la pêche. Alors, comment pêche-t-on le corail depuis la nuit des temps? En fin de compte, aujourd'hui, le roi est toujours pêché, mais les méthodes ne sont plus du tout les mêmes. Mais en fait, au début, depuis aussi loin qu'on remonte dans le temps, les bateaux sont des petits bateaux qui sont appelés des corallines. Ce sont des petits bateaux qui contiennent en général entre 3 et 6 marins. 3 à 4 marins pour les Trapanissois, enfin les Siciliens, et 6 marins pour les Génois. Donc ça marche soit à voile, soit à rame, enfin les deux, vous voyez. Et les gens donc pêchent. Alors comment pêchent-ils? Ils pêchent en raclant le fond et les bords. Vous voyez, ici vous avez la première photo, vous voyez des gens qui plongent. Alors c'est extraordinaire parce qu'ils ont des lunettes. Une photo qui est intéressante parce que vous voyez que les plongeurs, ça date du 17e, du 16e ou du 17e siècle. Hein, ça, c'est une gravure. Donc vous voyez que les gens plongeaient donc dans l'eau et remontaient des bras de corail qui donnaient au corail. Vous avez les corallines qui sont là, vous voyez, avec les rames et la voile. Donc les gens plongeaient et remontaient les bras. Ce qui veut dire qu'ils ne plongeaient pas très profond. Donc à l'époque, le corail était vraiment pratiquement subaffleurant, hein, parce que ce n'est pas possible. Mais très rapidement, ce genre de truc, ça ne pouvait pas durer, parce que le corail, à force de le pêcher en surface, ben, il n'y en avait plus. Donc il a fallu commencer à essayer de l'attraper plus bas. Alors pour l'attraper plus bas, ils ont créé un truc qu'on appelle une espèce de croix de Saint-André. Voilà, vous voyez, c'est une espèce de croix métallique ou en bois à laquelle on accrochait des bouts de filet, vous voyez, des bouts de filet, et qu'on traînait derrière les bateaux. Vous voyez encore les corallines ici. Donc vous voyez ici une croix de Saint-André, là, qui est là, donc qui était lestée par une pierre ou un morceau de fonte, qui descendait et qui raclait tous les fonds. Donc, et vous voyez, accrochait au passage tout ce qui pouvait être accrochable. Alors vous imaginez les dégâts, c'est-à-dire que la perte dans ce genre de truc, c'est 50%, même plus, on ne sait pas, on n'a jamais chiffré, mais c'est quelque chose d'énorme, il y a énormément de pertes, mais c'est la façon de pêcher qui a prévalu jusqu'au 18e, même 19e siècle, il n'y avait pas d'autres moyens. Il a fallu attendre les moyens modernes du 20e siècle, maintenant où les pêcheurs plongent en bouteille, jusqu'à 100, 150, 200 mètres en Corse, ils descendent à plus de 150 mètres maintenant, c'est incroyable. Ils ont des caissons de décompression, enfin c'est tout un système, c'est très industrialisé, parce qu'il faut descendre de plus en plus bas. Et c'est une des raisons pour lesquelles il existe encore un peu de corail, c'est que les gens n'avaient pas la possibilité de descendre aussi bas avant. Mais les dégâts sont quand même commis, donc, et le corail de Méditerranée a énormément souffert, cette pêche qui a duré près de, pas loin de 1000 ans. Vous voyez, c'est absolument extraordinaire. Alors, la distribution du corail en Méditerranée, je vais vous montrer maintenant des cartes. Voilà la présence du corail rouge en Méditerranée pratiquement à l'heure actuelle. C'est une carte très récente que j'ai trouvée il n'y a pas très longtemps. Vous voyez donc, en fin de compte, c'est surtout dans le bassin méditerranéen, donc compris entre la Grèce et l'Espagne, que se développaient les plus grands bancs de corail rouge de la Méditerranée. Plus vers l'est, il n'y a pratiquement plus rien du côté de la Turquie et sur les côtes du Moyen-Orient, et toute la Libye, il n'y a pratiquement rien. Et on trouvait quelques points en Atlantique, du côté de l'Espagne et du nord du Maroc. Mais la grande quantité de corail, c'était donc les côtes françaises de Provençal, la côte italienne, les îles de Corse et de Sardaigne, les Baléares, et la côte nord-africaine. Alors ça ne donne pas l'importance des gisements, hein, c'est juste des points où le corail rouge a été réellement spoté. Hein. Ça ne veut pas dire que les gisements les plus gros correspondent à chaque tache rouge, hein, d'accord ? Alors, maintenant, on va voir plus spécifiquement l'Afrique du Nord. Ah non, c'est une erreur. Okay. Bon, ça commence. Alors, c'est la carte d'avant. Ben non, je ne suis pas lié, quoi. Bon, peu importe, on verra ça tout à l'heure. Donc, pour l'Afrique du Nord, il y a deux zones extrêmement intéressantes. C'est la zone de Tabarka. C'est la ville de Tabarka en Tunisie, qui est à la frontière tuniso-algérienne. Et c'est une petite île qui est maintenant une presqu'île, d'ailleurs. C'est une petite île qui, vous allez voir, a une importance extraordinaire à travers le temps, pour un tas de raisons. Et plus à l'ouest, juste à la frontière algérienne, la ville de Mars, attendez, je trouve le nom, parce qu'à chaque fois... il y a la flèche. Oui, c'est ça.
Le rouge.
Voilà, le rouge. Voilà. Donc voilà, ici c'est Tabarka, et là c'est la ville de la cale, en fait. Voilà. C'est une ville donc, qui a été très très longtemps la base de la pêche pour les Français. Voilà. Ensuite, bon, il y avait toutes la côte algérienne. Alors là, il y a trois endroits. Enfin, je vais en reparler un peu plus tard. Voilà. Je vais parler maintenant un peu de l'histoire. Voilà, en gros, l'histoire maintenant. Donc je vais parler d'abord de la période arabe, qui est la période du 10e siècle, avec trois centres de pêche, principaux, qui sont à la ville de Ceuta, que tout le monde connaît au Maroc. Alors, je ne sais pas si c'est trois, là, je ne sais plus laquelle c'est peut-être celle-là ou celle-là, je ne sais pas, il y a Ceuta, Melilla, je crois que c'est la Ceuta. Hein. C'est celle qui est la plus proche de Malaga. La ville de Beaune, alors Beaune, je ne sais pas où c'est. C'est un abat, oui, c'est ça, d'accord. Oui, ben, c'est un abat, ben, c'est là, voilà. En fait, c'est la cale. Hein, la cale et Tabarka. Donc, c'était les trois zones de pêche privilégiées donc, des Arabes au Xe siècle. Voilà. Alors, à partir de ce tas, les gens exportaient leur corail après transformation, ça c'est important, vers l'Afrique du Nord. Parce que, évidemment, ils avaient un contact direct avec l'Afrique du Nord. Et ensuite vers l'Afrique. Enfin, ça, donc, c'était le dispatching du corail à partir de ce tas se faisait donc vers l'Afrique. Ah, ils transformaient le corail en boutons. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut avoir non, pourquoi des boutons, je n'en sais rien. Voilà. Par contre, Tabarka, en Tunisie, ici, le corail allait vers Madia. Madia, c'est une ville sur la côte tunisienne qui est entre Sfax et Sousse, là, par là, au milieu. C'est la pointe la plus extrême, je crois, de la Tunisie. Madia, c'est par ici. Voilà. Donc de Tabarka, il allait à Madia. Et de Madia, il allait en Égypte à Alexandrie, et d'Alexandrie, il partait sur l'Orient. Alexandrie était pendant très longtemps un port très important pour le dispatching du corail vers l'Orient et le Moyen-Orient et l'Orient. Mais dès le XIIIe siècle, il y a un abandon de l'activité par les Arabes. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, il n'y a pas de textes qui sont très explicites. Alors, on pense que la pêche était plus abondante dans le nord, parce qu'elle s'est développée donc, dans le pourtour méditerranéen septentrional. Et il y a cette raison-là. C'était la pêche est devenue l'apanage des Catalans, des Provençaux et des Ligures, donc des Génois, enfin tout le nord de machin. Certainement aussi de la Corse et de la Sardaigne qui avait commencé, mais la Sardaigne se développera un peu plus tard. Puis il y a eu la naissance à cette époque des républiques maritimes. Alors tous les Italienisants savent ce que c'est les républiques maritimes de l'Italie. Hein. Alors la plus vieille de toutes, contrairement à ce qu'on pense, c'est Amalfi. C'est celle que j'ai trouvée comme étant la plus ancienne. Oui, Amalfi. Ensuite, il y a Pise, Gênes, Venise et Raguse. Raguse, bon, c'est de l'autre côté. Hein. C'est Dubrovnik. Voilà, donc ces républiques ont commencé à se développer donc à partir du XIIe, XIIIe siècle. Et évidemment, ils ont eu une espèce d'hégémonie sur la mer, ce qui fait que les Nord-Africains ont un peu perdu de leur hégémonie à ce moment-là, mais qu'ils n'ont pas pour longtemps. Je verrai après pourquoi. Donc elles ont ces républiques, républiques maritimes italiennes, ont pris un peu le contrôle du commerce dans ces régions-là. Voilà. Au XVe siècle, alors il y a un retour donc de l'exploitation, surtout sur les côtes nord-africaines. Voilà. Donc une reprise de l'exploitation sur les côtes nord-africaines, mais avec une grande différence par rapport à ce qui s'était passé au XVIe, c'est que toute l'exploitation est entre les mains des étrangers. C'est-à-dire que maintenant, les gens d'Afrique du Nord, les Bey, etc., les Chirs et tous les pouvoirs nord-africains sous-traitent, si vous voulez, l'exploitation, tout ça, et retirent des royalties de l'exploitation du corail. Donc ils ont intérêt à ce que ça marche, parce que si jamais il y a des problèmes, ils ne touchent plus d'argent. Mais donc c'est la nouvelle base du commerce à partir du 15e, c'est ça. C'est-à-dire que les Nord-Africains n'interviennent plus tellement dans la pêche directement, mais au contraire sous-traitent leurs droits, etc., et touchent des royalties pour la pêche qui est effectuée. Ce qui va amener un monopole pour certains, des commerçants, et beaucoup de redevances pour ceux qui tolèrent ce genre de commerce. C'est là que le premier comptoir s'est créé. Le premier comptoir était établi par un Catalan qui s'appelle Rafael Vives, et qui s'installe à Tabarca, vous voyez, donc ça remonte à 1446-1448, dans le XVe siècle. Lui, il arrive avec 200 à 300 pêcheurs, et qui viennent de Sardaigne et de Sicile, qui sont les endroits les plus proches, évidemment, de Tabarca. Ils viennent avec leur bateau, mais ces gens-là, si vous voulez, ne restent pas tout le temps à demeure. Ils viennent faire la saison de pêche et ils partent, ils retournent. Donc il a son premier comptoir installé, mais ce n'est pas un comptoir permanent, c'est juste un début de comptoir. Voilà. À partir du 15e siècle, en 1442, il y a une victoire finale des Espagnols qui finissent par... L'Espagne contrôle un peu la Méditerranée à ce moment-là. Et on profite pour développer les récifs de la côte occidentale sarde. Voilà. Donc, et là se développe alors une ville dont on n'avait pas encore parlé, qui s'appelle Alghero, qui est par là, je ne sais pas si c'est là ou c'est là, c'est une des deux. Donc la Sardaigne, au XVe siècle, devient un centre d'exploitation du corail très très important. Et l'apogée du XVe siècle, c'est le principal d'opération des coralliens dans tout le bassin méditerranéen, donc devient la Sardaigne. Voilà. En 1492, il y a une prise de Grenade qui marque donc la fin de l'empire musulman sur l'Europe, donc avec la Reconquista. Et ça, évidemment... En 1442, je veux dire qu'en 1442, bien avant 1492, le roi Alphonse V d'Aragon s'empare du royaume de Naples et crée le royaume des deux Siciles. Voilà. Alors. Ensuite, en 1450-1500, il y a l'arrivée des Génois. Parce que les Génois, jusqu'à présent, on n'en avait pas encore parlé, mais c'est la République donc maritime. Donc les Génois, ils sont bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à gagner avec ça. Donc ils passent à l'attaque. Et eux, entre 1451 et 1506, créent de véritables comptoirs, en particulier donc à Marcel Kharat, donc à la Cale, en Algérie, où il y a 500 pêcheurs ligures qui débarquent. Mais l'arrêt de ces exploitations date de 1506, on ne sait pas pourquoi, on pense qu'il y a un univers rigoureux, tout ça, enfin les gens ont arrêté à ce moment-là. Mais il faut noter que jusqu'à présent, il n'y avait aucune transformation en Afrique du Nord. C'est-à-dire le corail était seulement pêché là, mais il n'était pas transformé là. Voilà. Alors pourquoi ça s'est arrêté en 1506? C'est pareil. Il y a eu, on pense qu'il y a eu d'abord la mort du représentant de Tunisie qui était très copain avec les Génois. Sa mort a entraîné donc une instabilité politique et les gens sont obligés de partir. Déjà à cette époque, il y avait un piratage absolument généralisé dans toute la Méditerranée, ce qui rendait très très dangereux toutes les opérations de circulation de petits bateaux, etc., parce que c'était des proies faciles pour les pirates. On en reparlera plus tard. Il y a l'arrivée des Turcs. Et puis il y a peut-être un peu l'épuisement des gisements à l'époque. Le redémarrage donc des exploitations en Afrique du Nord date de à peu près 1535. Vous voyez, avec la victoire de Charles Quint sur le pirate Barberousse. D'accord. Voilà. Et donc, qui, grâce à cette victoire, il remet sur le trône de Tunisie un de ses copains, un Al-Fassid, je ne sais pas. Hein. Donc, à nouveau, des contrats, etc. Donc, reprise de la pêche dans tous les domaines pour Mas al-Kharaz et pour Tabarka. Donc, vous voyez, c'est quand même les deux centres les plus importants d'Afrique du Nord qui reviennent tout le temps, c'est ces deux villes-là. Voilà. Alors, le retour donc de cette exploitation, là, c'est les premiers qui arrivent donc après cette victoire de Charles Quint, etc. Le calme qui revient un petit peu en Méditerranée, c'est les Trapaniens. Les Trapani, je ne sais pas comment on dit en italien, les Siciliens. Les Trapanese. Les Trapanese. Les Trapanese. Alors, ces Trapani, moi je vais dire les Trapaniens, hein, m'excuserai, mais bon. Alors, ces Trapaniens. Attends, je regarde s'il y a une autre photo après, là. Voilà, les cartes sont plus loin. Donc voilà la Sicile. Alors Trapani, c'est là, c'est le petit point jaune. On va mettre le truc rouge. Voilà, Trapani, c'est ça. Pourquoi c'est là? Parce que ça permet évidemment de dégager très facilement sur la Méditerranée. Et puis peut-être qu'ici, les côtes sont moins favorables à l'établissement d'un port. Et Trapani, donc c'est de là que les pêcheurs, donc les coralliers, sont descendus sur Tabarka. Et éventuellement sur la cale, et après on verra sur la Galie. Donc Trapani, c'est donc une zone de très très importante, dont je vais parler plus tard quand je vais parler plus spécifiquement de la Sicile. Parce que la Sicile, vous verrez que c'était un lieu très très important pour le corail, c'était vraiment le centre, et ça allait rester d'ailleurs, avec une autre ville qui naîtra plus tard du côté de Naples, qui s'appelle Torre del Greco, mais qui est apparue dans l'histoire beaucoup plus tard. Voilà. Donc c'est les premiers, donc les Trapaniens qui débarquent en 1539 à nouveau sur Tabarka. Puis alors là, les Génois arrivent, finalement, alors leur puissance de feu. Et l'île, c'est assez marrant, c'est messieurs Lomellini et monsieur Santurione, et Adamo et Francesco, c'est eux qui remontent un comptoir donc sur Tabarka, qui arrive avec 50 barques, une galiote, c'est-à-dire, je pense qu'une galiote, c'est un navire de guerre, je sais pas, c'est une galère, j'en sais rien, qui appartenait à Andrea Doria. Vous voyez, c'est donc des gens qui sont vraiment très organisés. Et ils arrivent à peu près avec 500 hommes, donc ils occupent vraiment Tabarka, et les Lomellini vont rester à Tabarka pendant très longtemps. Et vous allez voir l'histoire après. Alors là-dedans, on n'a pas encore parlé des Français. Mais les Français, ils se bougeaient derrière un peu, je m'excuse, mais ma femme n'est pas contente que j'en fasse dire. C'est vrai qu'on ne les avait pas entendus beaucoup, les pauvres. Pourtant, ils existent bien. Là, je vois qu'elle a la prochaine carte. Oui, ça, c'est... Ah oui, alors tiens, j'en profite pour vous montrer la Sardaigne avec Aguero qui est ici, voilà. Et ici, la petite île de Saint-Pierre. Avec Carlo Forte, dont je parlerai un peu plus tard. Ici, là. Ça, on en parlera plus tard. Voilà, donc ça, c'était donc au XVe siècle le point de départ de tous les corailliers qui devaient écumer toutes les côtes de Sardaigne, de Corse, etc. Donc, les Français, ils apparaissent pour la première fois de façon nette en 1547, par l'intermédiaire d'ailleurs d'un Corse, hein, qui est donc italien, parce qu'à l'époque, je pense que la Corse était italienne, qui s'appelle M. Thomas Lenche. Alors je ne sais pas encore si ça se passe, si les gens, c'est un nom corse qui est encore pratiqué aujourd'hui, mais ce gars-là a une place à Marseille, donc il est quand même assez connu en France. Et lui, il s'installe à la cale, à Marcel Haraz. Voilà. Et en 1551, donc 6 ans après, vous voyez, c'est ça, 5 ans après, il crée la Compagnie Royale d'Afrique pour la pêche du corail. Alors il y a une entente entre M. Lynch et le Bey Calabrais, qui est un Calabrais, mais qui est Bey de Tunis, hein, qui était un ancien esclave, qui a gravi les échelons de l'esclavage sur les bateaux, il est passé donc machin, il a fini comme Bey de Tunis, donc vous voyez un peu le personnage, il s'appelle M. Giovanni Dionigi Galeni, dit Uccelli. Uccelli, c'était le Bey de Tunis de l'époque, donc il était en fait un Calabrais naturalisé tunisien, enfin naturalisé, je ne sais pas naturalisé, mais qui était converti à l'islam. Comme beaucoup de gens qui avaient été mis en esclavage jeune pour continuer à vivre normalement, ils se convertissaient à l'islam, donc ils avaient le droit. Voilà. Donc, en fin de compte, Uche Ali s'entendait bien avec les Turcs, parce qu'on est déjà en 1547, 1550, donc voilà. Et là, grâce à, à cette entente entre le Corse et le Calabrais, on permet la construction d'un bastion, le bastion de France. Et ce bastion de France, ça va être la base de toutes les activités françaises pour le corail, donc dans l'ouest, dans l'est algérien. Et évidemment, ce sont des Provençaux qui arrivent là, qui commencent à pêcher, et qui deviennent très rapidement des concurrents directs des Génois de Tabarka. Donc vous voyez que tout ce commerce, en fin de compte, c'est basé sur la concurrence, sur des combines et tout ça. C'est quelque chose de très complexe. Là, je vous résume, mais si vous voir toutes les histoires qui se passent par en dessous, c'est inimaginable. Voyez. Donc, grâce à Léoménini, donc pendant cette période, malgré la présence des Français qui reluquaient sur l'île de Tabarka, Tabarka se développe énormément, et de 700 à l'origine, il y a plus de 2000 personnes résidant sur l'île quelques années plus tard, ce qui fait que c'est énorme et que c'est invivable. En fin de compte, il y a beaucoup trop de gens pour une île aussi petite. Mais c'est pour vous dire si le gâteau était intéressant, hein, parce que pour qu'il y ait autant de monde, voilà. Alors en 1738, donc je fais un bond dans le temps là, pour les Français, la Compagnie Royale d'Afrique engage des négociations avec les Loménini, parce qu'ils en avaient un peu plein d'eau là, pendant 100 ans, ils voyaient les autres qui profitaient un peu trop. Donc les Français, en douce, un gars qui s'appelait Napoléon, il avait un stade corps également, il essaye de s'entendre directement avec les Loménini pour racheter l'île. Il s'est dit, le mieux, c'est que je devienne propriétaire des comptoirs. Et comme ça, j'aurai plus de problème avec les Génois et les Italiens du coin. Donc, il commence à discuter. Il paraîtrait que les Loménini auraient vendu l'île, auraient payé pour lui céder les comptoirs. Mais, manque de peau, le Bey de Tunis a entendu parler de l'affaire. Et lui, il n'était pas du tout d'accord. Il ne voulait pas du tout que ça change. Il ne voulait pas du tout des Français. Donc, quand il a su, on l'a dénoncé, quelqu'un a eu l'idée de lui dire ce qui se passait, ce qui se tramait en catimini. Donc, il a envoyé ses troupes à Tabarka et il a bloqué tous les gens de Tabarka et les a tenus en esclavage. Voilà. Donc, tous les Tabarkais se sont retrouvés esclaves. Alors, c'est important pour la suite, vous allez voir, parce que les gens capturés sont ramenés sur la Tunisie, où ils étaient dispatchés dans les travaux, dans les familles, partout, un peu partout. Et les gens en Europe, eh ben, ils voulaient les racheter. Il y avait toujours des structures en Europe pour le rachat des esclaves. Parce que ce piratage des esclaves de Tabarka, c'est juste un détail dans l'histoire. Il y avait des piratages partout et des esclaves qui étaient pris partout. Il y a eu plus de 10 000 esclaves chrétiens pendant le 17e, 18e et 19e siècle dans tout le bassin méditerranéen. Vous voyez. Et les autres, de l'autre côté, faisaient pareil. Tout le monde prenait des esclaves partout. On a complètement occulté cette partie de notre histoire. Donc c'est très difficile. Enfin, ces personnes, on n'apprend pas à l'école, mais l'esclavage en Méditerranée, ça s'est arrêté en 1830. C'est jusqu'en 1830, il y avait des gens qui étaient coincés et qui étaient esclaves en Tunisie et en Algérie. Et c'est d'ailleurs une des raisons de la conquête française d'Algérie, ça a été ça, pas seulement tout le reste, mais pour faire cesser l'esclavage, enfin la capture des gens dans le pourtour méditerranéen. Bon, donc le Bey de Tunis, il rafle mille et quelques personnes. Et là, donc les Italiens se cotisent. Il y avait des caisses, il y avait des gens, il y avait l'église, il y avait tout le monde tout le monde cotisait pour essayer de racheter ces esclaves. Mais c'est très cher. Quand il y a des milliers de personnes à racheter, c'est des fortunes. Il a fallu 28 ans pour arriver à réunir toutes les sommes pour libérer tous ces gens-là. Bon, quand on les a récupérer, qu'est-ce qu'on allait en faire? Donc une grande partie de ces tabarqués ont été, grâce à Charles-Emmanuel III de Savoie qui s'en était occupé, grâce à lui, donc ces gens-là ont été libérés, une partie de ces gens-là, pas tous, vous allez voir, et ils ont été envoyés en Sardaigne, en particulier justement dans l'île de, que je disais, là, l'île
de Saint-Pierre, et ils ont créé le Carlo Forte, c'est-à-dire que ces gens-là ont donc se sont installés sur l'île. Et c'était pas si gratuit que ça. Ils l'ont fait pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, ça permettait d'occuper cette île et d'empêcher donc les pirates qui avaient cette base-là, les pirates mauresques qui avaient cette base-là pour attaquer toutes les côtes de Sicile. Donc ils étaient basés là-dessus. Donc on s'est dit, si on met des gens là-dessus et qu'on occupe l'île, eh bien, les autres vont partir. Ça s'est passé, mais ils sont revenus. Bon, ben bon, peu importe. Donc voilà, Emmanuel III fait libérer c'est une partie de ses esclaves qui se retrouvent donc donc vous avez des trapanistes, vous voyez, qui venaient de Tabarka et qui se retrouvent à Caloforte. Vous allez voir, c'est intéressant après. Donc, comme ils n'avaient pas libéré tout le monde, certains des esclaves qui ont été pris à cette époque-là ont été envoyés en Algérie. Donc, ils se sont retrouvés donc esclaves en Algérie. Et en Algérie, alors, il y avait. Attendez, j'en suis là, les esclaves changent de main et passent à Alger. Donc le roi Charles III d'Espagne, lui aussi, il se démenait pour racheter ses esclaves. Les esclaves en général, les esclaves chrétiens, et en particulier les Espagnols, parce que les Espagnols aussi, ils étaient comme tout le monde. Donc il entreprend des négociations avec le bey d'Alger, par l'intermédiaire de l'ambassadeur du Maroc en Espagne. Il y avait déjà des ambassadeurs à l'époque, et très très longtemps, des ambassadeurs d'Europe en Afrique. Il s'appelait El Ghassel, qui était d'abord ambassadeur de Maroc en Espagne, puis en Algérie. Donc ce El Ghassel avait des acquaintances en Algérie. Donc grâce à lui et à ses interventions, il y a un traité d'échange qui a été fait pour 1600 esclaves. Je ne sais pas si vous voulez dire, il y a 1600 esclaves chrétiens à Alger. Et donc échange de 1600 esclaves chrétiens à Alger contre 1600 esclaves nord-africains nord-africains musulmans donc en Espagne. Manque de peau, il y avait plus de il y avait pas assez de chrétiens en Algérie. Vous voyez, il y avait pas assez. Donc il y avait pas assez d'espagnols, il y a pas 1600 espagnols. Donc les espagnols vachement gentils ont dit bon, on va faire libérer les trapaniens et les italiens qui étaient bloqués avec les autres, donc ceux qui étaient arrivés de Tunisie. Donc ces gens-là sont libérés, alors c'est pareil, on les ramène en Espagne, on ne les pas ramener chez eux, hein. Ils les libèrent, ils les emmènent en Espagne, et ils débarquent à Cartagène, dans le sud de l'Espagne, et en 1769, donc c'est quand même le 18e siècle, 315 de ces Tabarcains hein, débarquent à la Nueva Tabarca, c'est-à-dire en fait c'est l'île plate, qui est à 20 km à l'est d'Alicante, d'Almeria, peu importe. Et là, donc, c'est une ville qui était également occupée par des pirates. Donc, là aussi, ils se sont dit, on va occuper cette île de façon à libérer des pirates mauresques qui existent sur les côtes. Donc, ces gens-là ont débarqué à Nueva Tabarca, parce qu'ils venaient de Tabarca et de Trapani. Et donc, ils ont fondé une colonie. Donc, vous avez deux colonies donc, d'anciens pêcheurs italiens, siciliens, qui sont donc Carlo Forte en Sardaigne et Tabarca en Espagne, et ben, ils sont en relation. Maintenant, ils ont jumelé leur... vous voyez, au 21e siècle, quoi. Donc les gens ont gardé la mémoire de tout ça. Vous voyez, c'était incroyable. Voilà. Alors, Tabarka, c'est terminé. Bon, alors, en 1780, donc, le commerce continue, hein, on est toujours au 18e siècle, on découvre énormément de corail autour des îlots de la Galite. Alors la Galite, c'est au... Je n'ai pas de carte de la Galite. Non, ça c'est Napoli avec... non, la Galite, c'est une île qui se trouve à peu près à 20 km à l'est de Tabarka. Ce sont des îlots. Et là, en 1780, on découvre... des bancs de coraux absolument extraordinaires, et c'est là que pour la première fois apparaît le nom de Torre del Greco, c'est-à-dire des Napolitains. Voilà, les Napolitains, Torre del Greco, c'est ici. Ouais. Ici, là, c'est voilà, Torre del Greco, c'est à 15 km à peu près au sud de Napoli. Et là, tout à l'heure, je vous ai parlé d'Amalfi. Amalfi, c'est là, hein. Donc c'est pas très loin non plus. Donc c'est vraiment la région napolitaine, hein, peut-être Salerne. Alors Torre del Greco, c'est une ville qui a été détruite, je ne sais pas combien de fois, par des tremblements de terre, des coulées de lave et tout ça. Donc c'est vraiment pas un lieu très, très hospitalier, comme toute la région de Naples à l'époque, il y a eu beaucoup de tremblements de terre, de morts, etc. Et là, donc, c'est pourquoi Torre del Greco? Je n'ai pas d'explication particulière. Mais donc là, il s'est créé la Real Compagnia del Corallo, à Torre del Greco, donc avec beaucoup de risques quand même pour la pêche. Et en fin de compte, les Torresiens, je ne sais pas si les Torresiens, je ne sais pas comment vous direz en italien, hein, les Torresini ou les Torres, je ne sais pas. Eux, ils étaient malins, ils payaient les corsaires pour pas être. Donc en fin de compte, ils donnaient des royalties directement aux corsaires pour éviter d'être mis en captivité. Et ça c'est. Donc on est déjà en 1808, il y a Murat qui arrive sur le trône de Naples, mais ça n'a pas changé grand-chose pour la vie de ces pauvres gens, qui étaient toujours à la proie du piratage. Et donc début 1800, il y a encore 23 corallines qui ont été prises par les Algériens et tous les mecs emmenés en esclavage. Mais, donc, voilà. En 1816, un Anglais qui s'appelait Lord Exmouth fait libérer 300 sardes et 500 napolitains des geôles algériennes. Vous voyez que c'était en 1816, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. La fin du cauchemar, pour la piraterie en Méditerranée, ça a été 1830, avec la destruction de la région d'Alger par les Français, l'occupation de l'Algérie par les Français. Donc, c'est eux qui ont vraiment mis fin à l'esclavagisme dans toutes ces régions où les pauvres mecs vivaient un enfer, quoi. Ils vivaient sous la menace permanente de l'enlèvement. Voilà. Donc je crois que c'est ce qui peut marquer un peu les esprits. C'était des périodes extrêmement troublées, et dont personne ne parle plus jamais, ni rien. Voilà. Bon, ça c'est la première partie de ma petite causerie, là. Donc on ne voit pas très bien le commerce là-dedans, mais le commerce se faisait quand même, et vous allez voir par qui il se faisait et comment il se faisait. Là, on a vu que la pêche et les histoires, tout ça, donc le machin. Mais en fait, c'est pas tout de parler ça, mais il fallait savoir pourquoi le corail est devenu si important. Et en fait, c'est en Sicile, à partir du XIe siècle jusqu'au XVIIe siècle, que le corail a vraiment pris sa valeur marchande la plus importante. Parce que, bon, comme je vous l'ai dit, c'est une matière qui avait une aura magique. C'était non minéral, même si c'est pétrifié, non animal, même si ça a la couleur du sang, et non végétal, même si c'est ramifié. Donc, il a fallu attendre 1800... Attends, je reviens un peu en arrière. Il a fallu attendre 1706. Le premier qui a pensé que le corail peut être animal, il a découvert par hasard, hein. C'est le comte Luigi Ferdinando Marsili, c'est-à-dire c'est un comte italien, qui était un militaire et en même temps un naturaliste. Et lui, donc, il va, comme il était un naturaliste, en plus, il était esclave. Il s'est fait bloquer un an, il est resté un an en esclavage, et comme il était riche, c'était un comte, sa rançon était payée rapidement, mais c'est un gars, bien qu'il soit comte, qui a été bloqué donc par les pirates, et qui restait un an en esclavage chez les Turcs. Vous voyez ? Donc c'est pour vous donner une idée, hein, des difficultés qu'il y avait à circuler à l'époque en Méditerranée. Donc ce comte, il sortait donc avec les corailleurs, et après une pêche, il a l'idée de mettre dans un bocal d'eau de mer un bras de corail comme celui que je vous ai montré au début. Et là, il a vu sortir donc les petites bestioles, huit machins, donc il en a déduit que c'était quelque chose de vivant. Mais c'est un peu tombé dans l'oubli. Par contre, ce monsieur, il avait formé un Français. Il a initié, comme il était naturaliste, il a initié un Français qui s'appelait Jean-André Peyssonnel, qui était un médecin. Donc, en 1723, ce monsieur Peyssonnel a répété l'expérience de son mentor, là, Marsili, et il s'est aperçu également que donc, ces fleurs, c'était en fait des animaux vivants, non pas des plantes, mais des animaux. Donc il a fait des déclarations en sens des académies du coin et personne ne l'a cru. Donc il a fallu attendre presque la fin du 18e pour que les gens acceptent, les scientifiques de l'époque acceptent que vraiment le corail était non pas une plante, mais un animal vivant. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas si loin que ça. Hein. Voilà. Parce que c'est classique dans la science, les gens ils ont des idées préconçues. Voilà. Donc pour en revenir maintenant au roi magique, donc le fait que ce truc-là avait toutes les qualités, et qu'en plus, dans l'Antiquité, on a toujours pensé que le corail, c'était du sang de Méduse, de la Méduse, qui a été décapitée par Persée, on pensait que le sang de la Méduse ou de la décapitation, les gouttes condensées, donnaient le corail. Donc pendant très longtemps, il y a eu une liaison entre le mythologique, entre le corail et les machins. Donc ça a perduré à travers toute la culture méditerranéenne, grecque et romaine, et évidemment française et les autres. Et le catholicisme a bien été obligé de prendre en compte cette réalité qu'il ne pouvait pas éliminer directement, vu qu'il y avait énormément d'intérêt pour le corail. Donc tout ce qui est les autorités religieuses ont repris, si vous voulez, donc cette légende de la Méduse, l'ont transformée en sang du Christ. Donc on est toujours dans la colure rouge, et donc la valeur, c'est une valeur symbolique du rouge, etc. Donc on a basculé d'une croyance à une autre, mais le corail donc a résisté à traverser tout ça jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est ça la pensée chrétienne, donc une assimilation des croyances populaires, vous voyez, au mystique sacré, donc avec le sang du Christ, voilà, du sang des Méduses, on est passé au sang du Christ. Voilà, donc ce qui a permis le développement, d'une part, pas seulement, mais d'une part, de l'ornementation des objets religieux, surtout en Sicile. Voilà. Donc ça, c'est ce développement d'objets religieux. Sinon, s'il y avait eu un barrage de l'Église, il est certain que ça aurait changé beaucoup de choses en Sicile et en Italie. Voilà. Donc là, on a commencé à fabriquer énormément d'objets, des ostensoirs, des calices, des crucifix. Je vais vous en montrer tout à l'heure. Après, on va passer aux photos parce que le discours sera un peu fatigant à longue. Pour vous, pas pour moi. Hein. Voilà. Alors, parallèlement donc à la naissance de cet art religieux qui utilise énormément le corail, donc, c'est surtout en Méditerranée, hein, parce que quand vous allez chez les Norvégiens, il n'y a pas tellement de corail dans les plus. Donc, parallèlement à la naissance donc, du corail, disons, à usage religieux, à application religieuse, il y a la naissance de ce qu'on appelait les cabinets de curiosité dans tout le monde intellectuel de l'époque. Et ça commence avec Ferdinand II, dans le roi de Sicile, etc. Vous allez voir, lui, c'est un cumulard de première. Donc, dans les cabinets de curiosité, il se devait, pour tous, d'avoir un corail. Et voilà, donc, ça c'est Tabarka et machin. Alors, je vous parlais du corail sur la côte africaine. Voilà, vous l'avez là, vous voyez. Voilà, vous avez l'île de la Galite, vous avez Tabarka, et vous avez toutes les zones de pêche en Algérie. Ça, je vous montre cette carte. Pourquoi ? Parce que c'est une carte qui date c'est une carte commerciale pour vous montrer que déjà, dès le premier millénaire, même avant, il y avait énormément d'échanges, vous voyez, méditerranéens, avec Alexandrie, Petra en Jordanie, vous voyez, Tyr, Petra, etc. Donc la route de l'encens, vous voyez, l'encens remontait donc du Yémen, machin, et le commerce donc se faisait vers l'Orient. Hein, donc ça, ça date de la nuit des temps. Donc il y a beaucoup de caravanes qui traversaient toute l'Arabie, qui a monté sur Petra. D'ailleurs, Petra c'est une ville de stop de caravane, qui a été aussi bien grecque que romaine, vous voyez, et Tyr, qui était le pont donc, qui permettait le commerce. Bon, j'espère que je ne suis pas trop confus. Alors voilà, ça viendra un petit peu plus tard. Je vous en parlerai plus tard, c'est quand on va traiter plus particulièrement de la Sicile, et justement de la naissance du commerce et de la transformation du commerce du corail en Sicile, qui est le point de départ, et l'importance des Juifs en Sicile, qui était absolument extraordinaire à l'époque, à tel point que même les cartes étaient écrites en hébreu voilà. Donc c'est pour vous montrer, c'est Trapani, hein. Trapani c'est dans le coin, je peux pas lire ni l'hébreu ni ce qu'il y a écrit, mais Trapani c'est ça, je crois, voilà. Donc vous voyez, voilà. Donc je reviens à mon cabinet de merveilles. Donc le cabinet des merveilles, ça a été le départ de toute une fabrication, d'abord la conservation intacte du corail en tant que branchu, si vous voulez, avec on pendait, je sais pas où est la photo, j'avais tout à l'heure.
Elle est avant.
Elle est avant. Ouais, ah voilà, t'as encore Trapani pendant qu'on y est, comme ça. Vous voyez, ça c'est d'une mosaïque, hein, une mosaïque de Trapani qui date du 18e siècle, voilà.
Voilà. Et avant
les cartes, oui, oui, c'était avant les cartes, oui, bon, ouais, ouais.
Ah, pour...
Ouais, je remonte. Je l'ai passé tout à l'heure, mais je m'en souviens. Hein. Ouais. Encore une. Ouais, ici, ouais, ça doit être là. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la première manifestation, le premier usage du Coran, du corail par des gens non religieux, si vous voulez. C'est une espèce d'appareil de montage où tout ce que vous voyez, c'est des dents de squat, là, tout ça, c'est des dents de requin. C'est allemand, hein. c'est pas italien, c'est allemand. D'ailleurs, on connaît. Et vous voyez, tout ça, c'est des dents de dents de squal qui sont pendues là, donc avec des montures en or. Et c'était pour, évidemment, ça a un rôle d'amulette. Hein. C'est et bien que ce soit des gens pleins d'argent, ils étaient quand même un petit peu peur de tout. Donc, ils se fabriquaient des porte-amulettes qui les protégeaient de tout. Hein. Le corail a toujours été utilisé. Pour tout soigner, c'est-à-dire que ça soignait les maux de ventre, ça soignait les maux de dents, vous voyez, il écrasait, il le buvait, enfin c'est un peu comme tous ces produits qui sont chargés d'une signification bien plus grande que ce qu'ils représentent en réalité, quoi. Voilà, donc c'est à partir de là qu'a commencé l'utilisation du corail à des fins, je ne vais pas dire laïques, mais comment dire, non religieuses, je cherche, profane, voilà, excusez-moi, voilà, donc il y a le profane et le religieux, voyez, qui sont développés parallèlement. Donc je vous montrerai à la fin des images du profane et du religieux. Oui. Voilà. Donc c'est Frédéric II, donc de Hohenstaufen, qui a sévi en Sicile de 1194 à 1250. Alors, attendez, je vous dis, il était roi des Romains, roi de Germanie, roi d'Italie, roi de Sicile et roi de Jérusalem. Tu sais pas du cumulard. Voilà. Donc, ce gars-là, c'est lui qui a commencé. Il est devenu roi de tout ça parce qu'il s'était marié avec la fille de Roger de Sicile, qui était un Normand. Donc, c'est l'occupation normande de la Sicile, qui est passée donc par héritage à la Germanie. Et c'est pas par des guerres, voilà. Par contre, lui, il s'est jamais entendu avec l'Église, il a été excommunié, tout ça. Enfin, bon, je crois que tout le monde connaît un peu l'histoire de Frédéric II, c'est un type absolument extraordinaire. Et c'est lui qui a initié un peu, justement, par sa cour, par son goût pour les belles choses, parce qu'il entretenait un commerce considérable avec toute l'Europe et même le Moyen-Orient, l'Orient, pour avoir des objets extraordinaires, les tapis, enfin, il avait tout. C'était un gars qui était extrêmement éclectique dans ses goûts. Donc ce Frédéric II, il a fait énormément pour le développement du corail en Sicile, et en particulier, il a fait une chose très intéressante, c'est qu'il a toléré, il a même encouragé la présence des Juifs. Et là, on va parler de la composante hébraïque en Sicile, donc à partir du... bien avant Frédéric d'ailleurs, hein, parce que la présence attestée des Juifs en Sicile date du 4e siècle, vous voyez. Donc à partir du 9e siècle, il y a une immigration systématique des Juifs d'Afrique du Nord qui viennent donc se réfugier en Sicile pour des raisons même pas forcément religieuses, mais parce qu'il y avait une énorme disette, il y avait beaucoup de problèmes à l'époque en Afrique du Nord. Donc il y a beaucoup de familles qui ont immigré et qui ont débarqué donc en Sicile en particulier, pas seulement là, il y a du Sorel, mais surtout en Sicile. Et là, donc Frédéric II les a protégés. En signant avec eux un pacte, voilà, une espèce de législation qui leur permettait de pratiquer leur religion, d'exercer leur métier, etc., contre, évidemment, finances. Ce qui dirait que c'était une source de revenus très considérable pour tous les dirigeants de la Sicile à cette époque-là. Et vous verrez que quand Ferdinand et Isabelle la Catholique ont viré les Juifs, enfin, ont viré tout ce qui n'était pas chrétien du coin, les gens de Sicile n'étaient absolument pas contents parce que c'était une perte de revenus incroyable. Bon, enfin, on en parle un petit peu plus tard. Donc là, Frédéric, donc c'est par les constitutions de Melfi en 1231 qui définit les rapports de la couronne et des Juifs. Voilà. Les Keuls ont payé beaucoup pour cet arrangement. Quand Alphonse d'Aragon est arrivé, après avoir chassé les Anjou et tout ça, il y a une continuité, c'est-à-dire qu'on a continué au début, donc avec les Espagnols, à protéger les Juifs, enfin à accepter, à les tolérer, etc. Et 14e et 15e siècle, la composante essentielle donc du commerce et de la transformation et du commerce du corail à partir de la Sicile était entre les mains des Juifs. Voilà. C'est eux qui avaient le monopole du commerce des produits de luxe, de tous les produits de luxe en général, et du corail en particulier. Mais la différence quand même, c'est que ces gens-là, ils n'étaient pas seulement donc les commerçants qui vendaient, ils étaient également les gens qui fabriquaient, qui transformaient. Et ce que les gens dont on a parlé avant, les Trapani, tout ça, ils ne faisaient pas. La transformation, c'est eux. Vous voyez, ils ont toujours été les bijoutiers du monde entier. Hein, bon, voilà. Et donc là, déjà, ça commence. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré la carte en hébreu, pour vous montrer l'importance qu'ils avaient sur le plan commercial et en Sicile. Donc, la Sicile, à cette époque, donc, elle a donc un rôle, enfin, et Trapani en particulier, un double rôle, donc transformation et commerce. Alors, le commerce, la Sicile fournit à peu près le corail à tout le bassin, donc, Moyen-Oriental, et l'exportation, donc, à partir d'Alexandrie, comme on l'a vu tout à l'heure, et au Caire, et à partir de là, est expédié aux Indes et au Yémen, par le Yémen, par l'intermédiaire du Yémen. Alors, le Yémen, c'est un des rares pays du musulman où, justement, le corail a un développement extraordinaire. Pourquoi ? Parce que, justement, c'était un lieu de passage pour les corailliers, et il y avait des bijoutiers juifs, également, au Yémen, à l'époque, déjà. Donc, au Yémen, vous avez encore aujourd'hui une très, très grande culture du corail. Il y a de très beaux bijoux en corail qui sont yéménites. Alors qu'en Arabie, il n'y en a pas. En Afrique du Nord, je vais vous montrer les miens, mais c'est extrêmement localisé. Il y a très, très peu de distribution, même au Maroc, tout ça. Et c'est surtout en Tunisie, il n'y en a absolument pas. Vous voyez. Et ce qui est très drôle, donc ces Juifs qui tenaient le commerce et la fabrication n'ont aucun objet en corail eux-mêmes. C'est-à-dire que il n'y a pas de corail juif, ça n'existe pas. Pratiquement, il n'y en a pas. Ils n'ont jamais travaillé pour eux-mêmes. Vous voyez, la religion, je ne sais pas si c'était interdit ou pas, mais enfin, eux, ils ne sont pas utilisateurs de corail à des fins religieuses ni quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'ils en faisaient un commerce et une transformation importante. Voilà. Donc, indépendamment du commerce, donc, ils initient au travail du corail, et ils forment des gens, enfin, il y a des ateliers, il y a énormément d'ateliers à Trapani de juifs, etc. Il y a énormément de travail, et alors, ils encouragent la pêche, ils n'ont jamais pêché, les juifs n'ont jamais pêché, ils n'ont jamais monté sur les bateaux, et ils encouragent la pêche, et ils payent même, si vous voulez, il y a le troc qui s'est développé à l'époque, et le même qu'on trouve aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens payaient à l'avance. Pour les récoltes, etc. Vous voyez, ils aidaient les marins pêcheurs à fréter leurs bateaux, ils leur prêtaient de l'argent pour qu'ils puissent vivre, etc. Et en retour, ils récupéraient le corail. Donc ça tournait bien, quoi. Ça marchait bien, le corail était produit. Bon, sauf quand les autres étaient enlevés par les pirates. Bon, enfin, voilà. Donc ils ont commencé par fabriquer, au début, au 15e, 16e siècle, ce qu'on appelle des perles pour les paternosters. C'est-à-dire, ça servait, tout le monde connaît ça, c'est l'île du chapelet. Pourquoi ? Parce qu'ils vendaient énormément de perles, non pas aux chrétiens, mais aux musulmans et jusqu'aux Indes, jusqu'au Népal et partout, parce que le chapelet existait depuis bien plus longtemps que chez nous, dans ces régions-là. Donc c'était eux qui avaient le monopole de la fabrication de ces perles, et qui a permis un commerce extraordinaire jusqu'aux Indes, voilà, qu'on retrouve encore au Népal, etc. Il y a des bijoux que j'ai vus sur Internet, j'ai un copain qui m'a envoyé une photo, d'un masque népalais qui est décoré avec du corail qui vient de la Méditerranée. Voilà. Voilà, donc ensuite, les Juifs sont très faiblement impliqués dans la pêche, je ne veux pas quelle heure qu'il est, voilà, c'est terminé, bon. Donc ils sont pas impliqués du tout directement physiquement dans la pêche. Ils sont en ce moment impliqués par l'argent qu'ils peuvent prêter aux gens qui vont la faire. Donc la pêche est essentiellement exercée par les chrétiens, hein, qui sont toujours les mêmes, les Génois, les Corses, les Français. Voilà. Donc en 1492, Ferdinand expulse les Juifs de Sicile. Alors là, c'est une réduction incroyable du travail, non, parce que du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Ça ne correspond pas exactement à ce qui s'est passé en Arabie quand j'y étais, quand les Saoudiens ont viré les Yéménites, qui étaient les bijoutiers à Jeddah partout. Quand, du jour au lendemain, il y a tout un pan de l'activité d'une société qui a disparu en 6 mois. Là, ça a dû être pareil. Mais les Juifs, eux, ils sont revenus sous couvert d'une conversion, hein, néophyte. Voilà, et très souvent en changeant de prénom. Donc ils ont pris des prêts, ils sont adaptés, mais il y en a énormément qui sont partis, et c'est là que les autres ont profité. Ils sont partis partout, à Naples, à Gênes, à Crémone, à Torre del Greco, etc. Donc en fait, quand ils ont fait fuir les Juifs de Sicile, les Espagnols, mais les Juifs sont allés s'installer ailleurs, ils ont développé ce qu'ils avaient perdu à Trapani et ailleurs, surtout Trapani, ils l'ont récupéré ailleurs. Certaines familles d'ailleurs sont revenues après, ils ont pu revenir plus tard. Voilà. Donc, beaucoup d'autres Juifs sont également retournés dans le Maghreb. Vous voyez, et les artisans juifs du 19e siècle qu'on va retrouver en Kabylie, etc., sont certainement des héritiers des techniques de fabrication sicilienne du 15e, du 16e et du 17e siècle. L'apogée de Trapani, c'est le 17e. Et là, c'est là où vous allez voir les objets les plus extraordinaires. Donc, voilà pour le. Ce que je voulais dire, maintenant je vais vous montrer. Voilà, c'est plus marrant. Voilà, je repasse les cartes, hein, Sicile, Trapani. Vous voyez, mais il n'y a pas d'autres points. Hein. Quand vous regardez la Sicile, le seul point où vraiment d'où les gens partaient et qui ont beaucoup travaillé, c'est Trapani. Il y avait Palerme, évidemment. Mais à Palerme, il n'y avait pas de départ de pêcheurs. Enfin, j'en ai pas entendu parler. Voilà Napoli, donc Napoli, Torre del Greco et Amalfi. Voilà la Tunisie, donc Tamarka et l'île de la Cale. Et on voit pas l'île de la Galite qui est un peu plus au nord. Michelin n'a pas bien fait son boulot. Donc là, les zones de pêche, là c'est machin, ça c'est la carte. Voilà, ça c'est une très belle qu'on a vu tout à l'heure. Voilà le premier bijou que je vous montre, c'est un bijou marocain. Voilà, ça c'est l'usage du corail dans les bijoux du Maroc. Ça c'est une coiffe de Tiznit, donc du sud d'Agadir, qui date du début du XXe siècle, vous voyez, et qui est un travail où on voit l'association très intéressante entre le corail, qui reste sous forme de cette branche, vous voyez, on voit des petites perles. Oh, attendez, oh, mince, je tombe. Voilà, donc des petites perles, tout ça, vous voyez, et l'émail. L'émail, et également, ce qui est intéressant, c'est toutes les petites billes d'argent, vous voyez, qui parsèment la totalité du dessin, qui sont typiquement d'origine européenne. Voilà, et en bas, vous avez des pièces de monnaie qui sont là. Donc ça, c'est un bijou qui est marocain, mais son inspiration est typiquement kabyle. Alors, est-ce que des kabyles... Des juifs kabyles sont allés à Tiznit et ont fabriqué ça au début du XXe siècle, c'est très possible. Ça, c'est beaucoup plus typiquement marocain, si vous voulez, ces deux choses-là, donc il faut un peu plus que ça et que le corail. Parce que ça, c'est ce qu'on trouve beaucoup plus en Algérie. Donc, c'est les premiers bijoux que je vous montre, c'est marocain, parce que moi, comme je suis originaire, je dis tiens, je vous montre d'abord en Maroc. Voilà. Ensuite, voilà, alors ça, c'est l'Algérie, vous voyez. Ça, c'est Grande Kabylie. C'est un fronteau, un diadème, c'est un fronteau que les femmes portent. Ouais. Alors ça, c'est une collection qui a été présentée en Italie. J'ai tiré ça d'un bouquin d'un bouquin italien. Avant que je sache jamais que je ferai un jour une conférence sur le sujet. Ouais. Donc vous voyez, la différence de traitement est grande par rapport à ce qu'on vient de voir précédemment. D'abord, c'est beaucoup plus aéré, c'est le même usage. C'est un fronto, c'est tombé sur le front. Je ne fais pas une faute en disant fronto et pas frontal, c'est un fronto TEAU. Hein. Bon. Donc, vous voyez que c'est des perles, c'est des gouttes et des cercles. Voilà, ça, c'est typiquement algérien. Attends, je vous en montrerai un, si je vois clair. Oui, voilà. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est la goutte telle qu'on l'a fait en Algérie, avec le corail taillé
après,
ah bon, d'accord. Voilà. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc tout ça, ça date du début de la fin du 19e, début du 20e. Alors on retrouve exactement, comme tu disais tout à l'heure, les émaux. Hein. Les émaux, c'est typiquement algérien. Voilà un collier algérien. Alors, c'est pareil. Vous avez donc les petites branchules qui sont percées et qui sont loin, et les pendlocs avec à chaque fois un morceau de corail. Voilà. Donc ce genre de lien, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà également, alors vous voyez ici, ça s'appelle, c'est une chevillère. Ces choses-là sont portées par paire, c'est-à-dire que ça se porte au pied, à la cheville, et la femme qui le porte, on a deux, on a un à chaque cheville. Malheur, c'est que la plupart du temps, les gens les ont vendus, les ont séparés. Moi, j'ai la chance d'en avoir une paire. Et celui que je vais vous montrer est exactement la copie de celui-là, sauf que le mien a beaucoup plus de mailles que celui-là. Mais là, vous voyez que le corail est beaucoup plus... Beaucoup plus rustique. Enfin, là, il est absolument pratiquement pas travaillé. C'est-à-dire que c'est tellement, tellement cher, tellement dur d'en avoir que les gens l'utilisent tel quel, brut, pour pas en perdre. Donc, vous voyez, c'est même pas poli. Vous voyez, il y a des trous. Il y a des, voilà. Vous verrez que c'est pareil sur ce mur. Parce que ça, c'est la grande Kabylie, c'est des gens qui sont assez rustiques par rapport à celui-là, qui est certainement un bracelet qui vient d'Alger ou de zones beaucoup plus raffinées. Donc là, il faut imaginer qu'il y en a une paire. Voilà, alors les fibules qui sont hyper classiques, que tous ceux qui ont été en Afrique du Nord connaissent en général, donc c'est ce que les femmes portent sur la poitrine. Et dans le noir, il y a une chaîne qui relie les deux. Là, c'est pareil, c'est toujours le même émail. Qui est magnifique. Là, tout ça, ça date de la fin du 19e, fin 19e. Parce que le corail est encore très, très beau. Là, ils ont un peu plus travaillé le corail, qui est poli, vous voyez. Mais vous voyez, l'importance du corail est vraiment considérable. Ça donne son cachet au bijou, quoi. Imaginez le même bijou sans corail, c'est plus du tout la même chose. Là, vous avez, alors là, ce qu'on appelle une tapzint. C'est une. Alors là, on retrouve une symétrie par 5. Merde. On retrouve une symétrie par 5. Vous voyez, c'est le soleil avec les quatre phases de la lune. Ça, c'est tout à fait chamanique. Alors, ça remonte bien d'avoir une flamme et tout ce qu'on pourra. On retrouve ce genre de distribution par 5, aussi bien sur les tapis de l'Asie centrale, les Turkmènes, etc. C'est vraiment une signification qui est une évidence absolue. C'est, donc le soleil et les quatre phases de la lune. Voilà. Donc là, ça, c'est une fibule qui est portée sur la poitrine de la femme lorsqu'en Algérie, en tant que Kabylie, là, c'est son premier enfant. Voilà. Donc la taille de la fibule qui peut aller jusqu'à 20 cm. J'en ai une, je pourrais me le faire, vous verrez. Vous voyez que toutes ces enveloppes qui sont toujours en corail, voilà. Voilà donc pour l'Afrique du Nord. Je pense que là on va passer maintenant à la. Voilà. Alors là on passe à Trapani. Tout ce que vous allez voir maintenant c'est 17e, mi-17e, fin 17e Trapani. Hein. Tout ça, tout ce qui va suivre c'est Trapani parce que je n'ai pas trouvé de choses plus intéressantes d'ailleurs. C'est vraiment typique, c'est l'apogée si vous voulez. Voilà. Donc vous voyez, ça, c'était une pièce de corail en entier. C'est-à-dire que le gars, il a... Imaginez la qualité du travail du gars qui a réalisé ça. Il a pris une branche en V, et il savait en la voyant qu'il allait faire ça. Parce qu'on ne peut rien modifier là-dedans. Il est obligé d'utiliser tout ce qui existe. Et on ne peut rien rajouter. Il n'y a pas de collage, il n'y a pas... Voilà. Donc vous voyez, c'est pour donner une idée de la qualité du travail que les artisans réalisaient donc au XVIIe siècle, à Trapani. Voilà, c'est un joueur de c'est un musicien. Voilà. Donc c'était un objet païen. Enfin, pas païen. Profane. J'arrive pas à m'y faire. Profane, voilà. Voilà, l'objet profane. Voilà. Alors là, voilà un objet religieux, voilà un autel. 17e. Alors vous voyez que là, c'est un usage exactement un peu comme on a vu en Afrique du Nord, avec des morceaux, mais qui sont beaucoup plus travaillés, beaucoup plus. Modifié, si vous voulez, par rapport à ces branches de corail qu'on utilise directement, où on fait un trou et qu'on passe en collier. Donc ça, c'est 17e, c'est un hôtel. Là, vous avez, voilà le fameux paternoster. Celui-là, il date du 16e siècle. Voilà, c'est ce qui a fait la richesse de Trapani au début. Donc la fabrication de ces perles, qui était donc la base du commerce au départ. Avant la transformation d'objets beaucoup plus luxueux, et surtout à destination sicilienne, européenne et italienne. Voilà, donc je ne peux pas vous dire combien il y a de perles. Enfin. Donc ça, c'est des pièces qui sont dans un musée, si vous allez à Trapani, vous pouvez voir, je pense. Voilà, alors, voilà l'usage du paternoster. Vous voyez, ça, c'est une peinture de 1500, juste 1500, donc c'est juste au XVIe siècle. Et voilà le paternoster, donc l'égrenage du chapelet par cette jolie femme. Voilà. Là, alors vous voyez que c'est Ponzino qui a peint ça. C'est Giovanni de Médici. Alors je ne sais pas quel c'est celui-là dans la famille, le fils de qui, le père de qui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a, voilà, là, un objet païen, tout à fait, vous voyez. Et tous les Italiens doivent se savoir connaître, c'est ce qui pend donc à la branche de corail, qui était vraiment l'objet absolument protecteur, l'amulette, vous voyez, voilà. Donc vous voyez, bon, c'est un Médici, il a un commerce, vous voyez, dans toute l'Italie, hein. Et les familles riches, justement, avec les cabinets de curiosité, etc., tout ça, avec ce genre d'objet. Mais c'est surtout leur usage ici qui est intéressant. Parce que c'est quand même certainement un bon chrétien. Ah, alors là, mystère complet. Ça, c'est le geste italien, par définition. On a cherché avec ma femme. Et s'il y a quelqu'un qui peut savoir l'origine de ce geste, c'est la main avec le pouce qui sort entre voilà. Donc, ça s'appelle la mano de Delfico, je crois, un truc comme ça. Hein. La main à la figue. Bon. Et ça, on n'a pas trouvé nulle part l'origine et la signification, c'est facile à comprendre. C'est un enlève-sort. C'est, vous savez, quand on se croise les doigts derrière le dos. Donc c'est un truc totalement païen. Païen, on peut dire, pratiquement. Là, c'est notre plus du... voilà. C'est pas érotique. Non, c'est pour contrebalancer le mauvais œil. Ah non, c'est pas érotique, ça serait pas toléré. Non, c'est chamanique, hein, presque, certainement. Voilà. Et donc c'était pendu, alors c'est classique, il y a une bague, il y a la bague et le collier en perles. Voilà. Donc, et c'est monté sur une monture en or, donc c'est pas un truc que vous achetez au voisin du coin, hein. C'est un truc de la qualité du travail, etc. Donc, alors l'origine, c'est pas expliqué dans le bouquin. On n'a pas trouvé l'origine de ça, pourquoi, etc. Mais c'est purement sicilien. Voilà.
Non, il y en a en Corse
aussi. Ah, oui, c'est normal, mais je pense que ça date du
avec
la même signification.
Absolument, c'est pour éloigner le mauvais sort.
Voilà, c'est un talisman.
Tous les bébés, ouais. Petite main comme ça, à la ouais. Naissance.
Avec le pouce qui sort, voilà. Ah oui, c'est mauvais sort, pour ça c'est pas du tout érotique, hein, c'est pas... Il n'y a aucun érotisme là-dedans, hein, c'est pas...
Voilà. Mais
qu'est-ce qu'il tient dans sa main? On n'arrive pas à savoir, ça, c'est... Attends, merde... Ça, je sais pas ce que c'est, ça. C'est ça qu'on ne sait pas. On n'arrive pas à comprendre. On voit le pouce qui sort là. Ouais. Mais ça, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas.
Oui, mais le geste de
faire
sortir le
pouce. Oui, ça c'est. Oh, c'est comme ça.
Mais ce qui tient dans la main.
Voilà, alors maintenant, on passe à la décoration, c'est des pans, vous voyez. Donc c'est certainement du bronze ou du cuivre doré avec un montage, décoration. C'est absolument. Tout ça, c'est 17e. Hein, voilà. Les deux pans. C'est pas le même, c'est deux pans. C'est deux pans, hein. Voilà, un miroir, vous voyez. Voilà. Alors c'est certainement de la nacre. Je pense que le blanc, c'est nacré. Oui, avec le corail rouge qui sort. On dirait des petits fruits, là, des espèces de tomates. Ouais. Voilà. Alors c'est des trucs qui ont 50, 60 cm, hein, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Alors là, on va voir quelque chose qui est extraordinaire pour la Sicile. C'est ce qui servait à des antépendures, c'est ce qui servait à décorer les autels religieux dans les églises. Alors, ce que vous voyez là, ça fait 3 mètres, plus de 3 mètres de large. Et il n'y a que la moitié, parce que c'est un bouquin à deux pages, je ne peux pas vous faire cette idée. Donc, vous n'avez qu'une moitié, il y a l'autre moitié de l'autre côté. Et en tout, ça fait 3,10 mètres de large sur 1,05 mètre de hauteur. Donc c'est ce qu'on mettait devant les hôtels en Sicile pour la décoration. Alors vous voyez un peu le travail. Chaque petite fleur est composée de perles de corail rouge. Vous voyez, il y en a partout. Ouais. On voit la suite, là, un agrandissement, voilà, vous voyez, chaque truc est composé de, ouais, vous pouvez imaginer le travail, ouais, avec tous ces trucs, voilà. Et il y a ça, dans la plupart des églises en Sicile, il y avait ça. C'est vraiment un objet qui était très répandu au 18e, 19e siècle, au 19e, donc maintenant c'est dans les musées, mais les antépendiums, il y en avait un peu partout en Sicile, c'est typiquement sicilien. Alors voilà un ostensoir, voilà, c'est pareil. C'est très très. C'est un peu chargé toujours. Hein, c'est pas, ouais. Voilà encore un antépendium, mais alors là, il a une connotation beaucoup plus architecturale que l'autre. Enfin, avec des arcades et tout ça. Donc il y a certainement un fond de jardin derrière. C'est pareil. Ça servait donc à la décoration des hôtels. Voilà un agrandissement, vous voyez le travail. Alors c'est soit sur de la soie, soit enfin un tissu de qualité, bien sûr, ils n'avaient pas à faire ça sur des... Vous voyez, c'est typiquement architectural, quoi. C'est vraiment une vision à travers une fenêtre avec un pot de fleurs, enfin c'est... D'ailleurs le pot de fleurs tel qu'on voit là, c'est un... C'est... Ça a l'air comme ça, mais en fait c'est un objet qui intéresse l'humanité aussi bien à l'ouest qu'à l'est, parce que quand vous rentrez jusque chez les Mogols et tout ça, le vase avec chez les Perses et tout, vous avez partout des vases avec des fleurs. Donc ça, c'est vraiment, on sent l'influence culturelle de la culture, le mélange, parce que c'est absolument typique de la culture orientale. Alors voilà un objet encore qui n'est plus d'obédience religieuse, mais qui est donc un écritoire, surtout pour... Enfin, un truc pour mettre les plumes, les, vous voyez, vous avez ici les encriers, là. Donc on peut mettre les plumes et tout, les poutres séchées là-dedans, vous voyez. Donc vous voyez, c'est un objet de maison, quoi, qui servait tous les jours et qui devait seulement appartenir à quelqu'un qui avait quelques pouvoirs dans le... Donc voilà, ici, alors un objet, on revient à... Voilà, donc un Christ absolument extraordinaire, hein. Sur un support en argent, voilà, qui donc date du 17e. Voilà, alors un rosaire, alors beaucoup plus compliqué que le paternoster de tout à l'heure, donc c'est beaucoup plus tardif, c'est beaucoup plus baroque, hein. On rentre dans le baroque, là, un peu le truc très chiadé, très... Mais c'est plus du tout une bille qui a été taillée, mais c'est des coraux qui sont collés sur quelque chose de, je ne sais pas ce que c'est, de sous en blanc.
Parce qu'il faudrait le voir,
l'avoir dans les mains pour savoir un peu ce que c'est. On revient à ça, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça c'est le détail de la boîte. Vous voyez un peu le travail. Vous voyez un peu, c'est assez extraordinaire. Hein. C'est, vous voyez, le détail de la sculpture, c'est c'est une composition absolument incroyable. On peut trouver chargé, c'est évident. Mais qui représentait surtout l'accomplissement d'un travail à l'époque au 17e. Alors voilà une merveille. Là, c'est Jésus avec saint Thomas. Vous voyez, tout ça taillé dans un. C'est pareil, on oublie que c'est du corail presque. Hein. Voilà encore une base de calice. Vous voyez, c'est pareil, très très chargé. Alors évidemment, le rouge va très bien avec le propos de l'objet, hein, du contenant. Voilà le détail. Vous voyez, c'est toujours, quand on le voit en gros, mais quand on regarde en détail, c'est incroyablement travaillé. Avec ici, vous avez des têtes. Vous voyez, enfin, c'est partout, c'est hyper travaillé. Là, il y a des poutis, ça, on dirait des têtes de rois, enfin, avec des couronnes et tout. Enfin, c'est comment. Alors, si je vous parlais, ça doit être du cuivre doré, je pense. J'en suis pas. Ouais. Alors, voilà un chemin de table, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est un essai de cap, voilà. Voilà. Vous voyez,
bien que c'est la victoire de je ne sais plus qui, enfin, c'est un truc fait à la gloire de quelqu'un. Mais il y a un peu le travail, donc c'est une détune. Il ne veut pas être sur 24 heures. Hein. Ouais. Et vous imaginez le prix d'un objet pareil, hein, ça ne devait pas apporter toutes les bourses de l'époque. Voilà. Je pense que c'est fini. Ah oui, dans ces détails. Oui, ces détails de. Vous voyez un peu le travail du courage. Voilà. Voilà. Alors. Et enfin, le camé. Parce qu'on n'avait pas parlé des camés. Voilà, les camés, parce que j'ai eu du mal à trouver une photo de camé en corail, parce que le camé, c'est toujours en sinistre, enfin, en sinistre, ou en SIO2. Hein. Et là, vous avez les camés en corail. Voilà. Donc, je crois que c'est la dernière photo, c'est pour montrer que déjà le camé. Voilà. Et on revient au départ.
Voilà.
Alors maintenant, si vous voulez, on peut rallumer. Je vais vous montrer quelques.
Oui, je vais vous montrer quelques. Moi, tout ce qui est dans les musées, je ne l'ai pas. Hein. Mais j'ai des trucs qui sont. Qui méritent. Voilà. Bon, celui-là, déjà. Voilà, donc le travail algérien du 19e siècle. Tout ça, c'est le 19e siècle. Ah, je vais vous raconter une histoire justement sur le rouge. À la fin du 19e, il s'est trouvé qu'il n'y a plus de corail, beaucoup moins. Donc, fin 19e, début 20e. Bon, on ne peut pas dater à 5 ans près, on ne sait pas. Hein. Mais c'est disons fin 19e. En Algérie, on ne trouvait plus beaucoup de. Pardon ? Ah oui, d'accord. Donc, on ne trouvait plus de corail. Et les bijoutiers se sont trouvés devant un problème, qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer le corail ? Alors à l'époque, la bakélite est apparue. Donc vous avez énormément de bijoux de haute Kabylie où le corail a été remplacé par de la bakélite. Voilà. C'est pas pareil, mais bon. Mais chez un collectionneur, ça a une valeur extrêmement intéressante parce que ça n'a pas perduré très longtemps. Vous voyez ? Et donc on peut trouver des objets comme ça où ce n'est pas du corail que vous avez là mais de la bakélite. Il faut faire attention que si vous achetez des trucs. Et des fois ils n'avaient même pas de bakélite, ils mettaient du papier sur une un peu sur une pâte de toute façon à faire comme si. Enfin, vous voyez, donc c'est la disparition peu à peu du corail. Oui, le prix exorbitant, surtout ça en place. C'est pour ça que c'est purement 19e parce que vous trouvez des coraux de cette taille. À l'époque, c'est certainement pas dans le 20e. Hein, et le travail, etc. Donc, ça, c'est un truc que j'ai acheté. C'est pour ceux qui ont connu l'Algérie, c'était appartenu à Fernand Pouillon, qui était l'architecte. Ouais. Donc, ça vient de. Alors là, c'est l'erreur du siècle, c'est qu'il y en a une paire. Donc, si quelqu'un sait où est l'autre, ouais, les gens, quand ils ont vendu, ils ont séparé. C'est une catastrophe, parce que ça va toujours par paire. Donc tous les... Ah oui, dans le monde, partout, dans tout l'Orient, le Moyen-Orient et l'Ouest de l'Afrique, hein, les bracelets, les chevillères, les bracelets sont toujours par paire. Donc une femme a toujours un bracelet pour la main gauche et la main droite. Et pour les chevilles, pareil, hein, un bracelet pour la cheville gauche et la cheville droite. Donc c'est toujours par paire. Alors là, j'ai que celui-là, parce que la famille certainement a vendu l'autre à quelqu'un d'autre. Alors je vais vous montrer celui que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, la chevillère, qui est l'équivalent de ça, mais relativement, mais pas qui ne provient pas du même endroit. On voit bien que ce n'est pas la même chose. Ça, c'est certainement un truc urbain. Ça, c'est donc purement kabyle, grande kabylie, vous voyez, avec les coraux qui sont énormes, gros, très gros, hein. Mais absolument pas à travailler. C'est-à-dire qu'on a conservé, on l'a un peu poli pour qu'il ne soit pas trop rugueux, mais il est resté avec sa forme. Pourquoi ? Parce que justement, c'est un objet qui. C'est quelque chose qui vaut cher et on ne veut pas en perdre. On met tout avec un petit peu d'émail. Vous voyez ? Et le côté baroque, après, on est dans le baroque, après on va passer au rococo, donc vers la fin, ça va se charger énormément en émail, comme toujours, c'est le délire de la.
de mettre de l'émail partout. Donc les plus récents sont beaucoup plus émaillés, beaucoup moins beaux que ça. Et vous voyez toujours les granules d'argent partout, qui sont donc la traduction de quelque chose qui est bien, bien antérieur. Voilà. Je vais vous montrer maintenant le Tafzim, que vous avez vu tout à l'heure. Ah, ça, c'est ça, que je vous ai nettoyé. Tafzim, donc c'est le pectoral, exactement. Donc c'est le bijou que la femme a le droit de porter quand elle a eu un enfant. Voilà. Alors c'est pareil, vous avez la symétrie par 5.
Et c'est
lourd. Oui, ça pèse 400, 500, 600 grammes, hein. C'est très lourd. Hein. Oui, c'est l'argent massif. Hein. Et c'est décoré à l'arrière, aussi bien devant que derrière. Voilà. Vous voyez, vous avez la symétrie par 5. Voilà.
Ah oui,
oui. Voilà, alors là je vous ai amené un petit bracelet pareil. Tout ça c'est 19e, tout, à peu près tout certain. Donc avec des petites paires de corail, toujours pareil. Alors là il y en a également le père, mais je n'en ai même qu'un parce que je ne vais pas m'amuser à en porter deux. Hein, je vais pas amener tout le monde. Voilà. Donc vous pouvez imaginer une femme quand elle porte tout ça. Alors là, je vais vous montrer, vous avez vu les fibules tout à l'heure, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est ça, exactement, vous voyez. Là aussi, il y a une symétrie par 5, là, il y a par 4, là, c'est pas par 5, là, c'est très élégant, donc il y a des paires, toujours par, ça va être par paires, oui, je la regarde. Non, mais c'est bien, parce que vous pouvez les regarder des deux côtés, c'est décoré des deux côtés, voilà. Alors tout ça, c'est introuvable, c'est fini, tout ça n'existe plus, hein. Donc c'est... Voilà. Alors, là, vous avez... je vais vous montrer un des rares bijoux de petite Kabylie. Là, vous avez la fibule de grande Kabylie. Ouais. Et là, vous allez voir la fibule de petite Kabylie. Là, j'en ai une paire, bien sûr. Tu vois. Alors ça, c'est assez exceptionnel. J'en ai jamais vu. C'est le seul que je connais, moi. Voilà. Donc ça, c'est la petite Kabylie, donc qui est... Puis en s'éloignant de l'Algérie, hein. Donc Kabylie c'est au bord de la mer, la petite Kabylie c'est derrière. Donc oui, c'est de l'argent absolument pur, pratiquement pur. Et les coraux sont très très beaux. Donc ça c'est aussi des pièces qui datent du 19e siècle. Quoi. Voilà. Vous voyez, le corail n'est pas poli, c'est-à-dire qu'on voit tous les... Enfin vous ne voyez pas, mais c'est tout...
Moi je vois bien.
Les autres, ils ne voient pas. Voilà. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, il y a ça qui est assez exceptionnel. Alors ça... Voilà. Donc c'est...
Non, je ne vais pas le mettre.
Alors ça, c'est un fronto. C'est exactement l'équivalent de ce que vous avez vu au début. Voilà.
Tu devrais mourir, toi, viens.
Ça, c'est Tisdik,
oh,
hein.
Qu'est-ce que c'est ?
Maroc. Ouais.
Voilà, tout le monde voilà. Le voit.
Donc ça, c'est le 19e, début du 20e. Certainement. Et certainement réalisé à Tizlit au sud de l'Europe par un juif bijoutier qui a dû venir de. Qui a dû venir d'Algérie à l'époque. Voilà, le collier, là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'équivalent. Voilà, Grand Kabylie. Et on termine par le Maroc. Alors, le Maroc, c'est beaucoup plus rustique. Ça, c'est certainement. Vallée du Jura, je ne peux pas vous dire. Vous voyez l'usage, le corail, quand il est vieux, là, il doit dater celui-là de début 19e, facile, peut-être même avant. Les petites perles deviennent marron, se perdent de leur couleur rouge, vous voyez. Et ça, c'est une datation absolument certaine. Vous ne pouvez pas imiter ça, il n'y a aucun le vieillissement et le Montréal. Voilà. Et est-ce que vous voyez les petites pièces en argent, vous voyez, c'est des pièces de monnaie. Voilà. Et voilà.
On peut
lui
montrer un peu
oui. Et voilà.